Chapitre 16. Les trois fêtes principales de l'année. Ce chapitre nous présente les trois grandes fêtes principales de l'année juive: la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Comme type, ces fêtes évoquent la rédemption, le Saint-Esprit et la gloire. Nous avons ici une vue plus restreinte que celle qui est donnée en Lévitique 23, où l'on compte sept fêtes: la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des premiers fruits, la Pentecôte, la fête des trompettes, le jour des propitiations et la fête des tabernacles. Tel est l'ordre des fêtes dans le livre du Lévitique, livre qui peut être appelé le guide du sacrificateur. Mais dans le Deutéronome, qui est surtout le livre du peuple, nous avons moins de détails rituels et le législateur se borne aux grands traits moraux qui concernent le peuple. La Pâque. Garde le mois d'Abib et fais la Pâque à l'Éternel, ton Dieu. Car au mois d'Abib, l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir de nuit hors d'Égypte. Et sacrifie la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, du menu et du gros bétail, au lieu que l'Éternel aura choisi pour y faire habiter son nom. Tu ne mangeras pas avec elle de pain levé. Pendant 7 jours, tu mangeras avec elle des pains sans levain. Pain d'affliction, parce que tu es sorti en hâte du pays d'Égypte, afin que, tous les jours de ta vie, tu te souviennes du jour de ta sortie du pays d'Égypte. Et il ne se verra pas de levain chez toi dans toutes tes limites pendant 7 jours. Et de la chair que tu sacrifieras le soir du premier jour, rien ne passera la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras pas sacrifier la Pâque dans l'une de tes portes que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Mais au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y faire habiter son nom, là tu sacrifieras la Pâque, le soir, au coucher du soleil, au temps où tu sortis d'Égypte, et tu la cuiras et la mangeras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Et le matin tu t'en retourneras et tu t'en iras dans tes tentes. Pendant 6 jours tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour il y aura une fête solennelle à l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucune œuvre. Versets 1 à 8. Ayant donné beaucoup de détails sur les grands principes de cette fête dans nos notes sur le livre de l'Exode, nous y renvoyons le lecteur. Mais il y a certains traits particuliers au Deutéronome sur lesquels nous désirons attirer l'attention. Et d'abord, remarquons le soin mis ici à spécifier le lieu où la fête devait se célébrer. L'importance pratique en est grande. Le peuple ne devait pas choisir le lieu lui-même. Au point de vue humain, il pouvait sembler assez peu important de savoir où et comment la fête devait être célébrée, pourvu qu'elle le soit. Mais il n'en était pas ainsi. Dieu avait le droit de prescrire et de décider où il voulait rencontrer son peuple, et c'est ce qui nous est montré dans le passage cité ci-dessus. 3 fois, ces mots sont répétés « au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi ». Dieu prend un soin spécial à graver sur le cœur, la conscience et l'intelligence de son peuple qu'il voulait avoir un lieu particulier où l'importante fête de la Pâque devait être célébrée. Remarquons que c'est seulement dans le Deutéronome qu'il est insisté sur le lieu de la célébration. Nous n'avons rien de cela dans l'Exode, parce que là, on l'a célébré en Égypte. Il n'en est pas fait mention dans les Nombres, parce que là, elle était célébrée dans le désert. Mais le Deutéronome renferme les instructions qui convenaient au peuple fixées dans le pays. La raison capitale pour laquelle il est si fortement insisté sur le lieu, dans les 3 grandes solennités rapportées dans notre chapitre, est que Dieu voulait rassembler autour de lui-même le peuple qu'il aimait, afin qu'il puisse célébrer la fête ensemble en sa présence, afin que lui puisse se réjouir en eux et eux en lui, et les uns dans les autres, ce qui ne pouvait se faire qu'au lieu désigné de Dieu. Tous ceux qui désiraient s'approcher de l'Éternel et rencontrer son peuple, tous ceux qui désiraient un culte et une communion selon Dieu, se rendaient avec reconnaissance au centre choisi de Dieu. La présence de Dieu seul pouvait procurer joie, force et bénédiction à tous ceux qui la recherchaient. Ce n'était pas le simple fait de se réunir en très grand nombre, 3 fois l'an, pour se réjouir ensemble, ce qui aurait pu favoriser l'orgueil humain et l'excitation. Non. Mais se réunir pour rencontrer l'Éternel, s'assembler devant lui au lieu qu'il avait choisi pour y faire habiter son nom, était une joie profonde pour tout cœur vrai et loyal en Israël. Les pains sans levain, pains d'affliction. Après avoir parlé brièvement du lieu de la fête, jetons un coup d'œil sur la manière de la célébrer. Là aussi, comme on pouvait s'y attendre, nous trouverons ce qui caractérise notre livre. Le trait principal, ici, est les pains sans levain. Mais le lecteur remarquera qu'ils sont appelés les pains d'affliction. Pourquoi cette désignation ? Le pain sans levain est le type de cette sainteté de cœur et de vie si absolument essentielle à la jouissance d'une vraie communion avec Dieu. Nous ne sommes pas sauvés par une sainteté personnelle, mais, grâce à Dieu, nous sommes sauvés pour la sainteté. Elle n'est pas le fondement de notre salut, mais un élément essentiel à notre communion. Le levain toléré est un obstacle absolu à la communion et au culte. Nous ne devons jamais perdre de vue ce grand principe dans la vie de sainteté personnelle et de piété pratique que nous sommes tenus de mener comme ayant été rachetés par le sang de l'agneau. Pour jouir de la communion avec Dieu ou de la communion des saints, pour adorer Dieu en esprit et en vérité, il faut vivre une vie de sainteté personnelle, d'une vie de séparation d'avec tout mal connu. Prendre notre place dans l'assemblée de Dieu et avoir l'air de participer à la communion et au culte qui lui appartiennent, tout en vivant dans un péché secret ou en tolérant un mal connu, c'est souiller l'assemblée, attrister le Saint-Esprit, pécher contre Christ et attirer sur soi le jugement de Dieu. Cela est bien solennel et appelle la sérieuse attention de tous ceux qui désirent réellement marcher avec Dieu et le servir avec révérence et avec crainte. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever la pâte tout entière ? Ôtez le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. Car aussi notre Pâque, Christ, a été sacrifié. C'est pourquoi célébrons la fête non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de sincérité et de vérité. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Mais que devons-nous comprendre par cette expression « les pains d'affliction » ? Les chants de joie, de louange et de triomphe ne seraient-ils pas mieux en rapport avec une fête commémorative de la délivrance de l'esclavage et du joug des Égyptiens ? Il y a en effet un sujet de profonde joie, de reconnaissance et de louange lorsque nous réalisons que nous sommes pleinement délivrés de notre condition première et de toutes ses conséquences. Mais tels n'étaient pas les traits dominants de la fête des pains sans levain, puisqu'ils sont nommés les pains d'affliction. Ces pains sont une figure des profonds exercices de cœur que le Saint-Esprit produit en nous représentant avec puissance ce qu'il en a coûté à notre Sauveur pour nous délivrer de nos péchés et du jugement que ces péchés méritaient. Nous avons aussi un type de ces exercices d'âme dans les herbes amères d'Exode 12. Dans ces exercices, il n'y a pas trace d'un élément légal ou d'incrédulité, loin de là. Quand un Israélite mangeait des pains d'affliction avec la chair rôtie de l'agneau de Pâques, cela n'exprimait pas le moindre doute ou la moindre crainte quant à son entière délivrance d'Égypte. Il était dans le pays de Canaan, il se réunissait avec ses frères au lieu même désigné par Dieu et en sa propre présence. Les Israélites ne devaient jamais oublier leur sortie du pays d'Égypte, mais en gardaient le souvenir dans la terre promise à travers toutes les générations. Ils devaient faire la commémoration de leur délivrance par une fête, emblème de ces saints exercices qui caractérisent toujours la vraie piété chrétienne. Nous désirons appeler la sérieuse attention du lecteur chrétien sur l'ensemble de la vérité indiquée par les pains d'affliction. Les jeunes chrétiens surtout courent le grand risque, en cherchant à éviter le légalisme, de se jeter dans l'extrême opposé, le relâchement. Ils entendent beaucoup parler du salut par grâce, de la justification par la foi, de l'affranchissement de la loi et de tous les privilèges qui appartiennent à la position chrétienne. Toutes ces choses sont d'une importance capitale, mais il ne faut pas oublier la puissance sanctifiante de ces grands principes, leur influence dans le cœur et dans la vie pratique. Il n'aurait pas été selon la pensée de Dieu que quelqu'un essaie de célébrer la fête sans les pains sans levain, les pains d'affliction. Eh bien, soyons assurés que, pour nous aussi, chrétiens, une partie indispensable de la fête que nous sommes appelés à célébrer est de cultiver la sainteté personnelle. Nous avons grand besoin de ces affections spirituelles, de ce travail profond que le Saint-Esprit produit en nous en révélant à nos cœurs les souffrances de Christ. Ce qu'il lui en a coûté pour effacer nos péchés, ce qu'il a enduré pour nous, lorsque les flots et les vagues de la juste colère de Dieu contre nos péchés ont passé sur lui. Nous manquons malheureusement beaucoup de cette profonde contrition qui provient d'un cœur occupé des souffrances et de la mort de notre précieux Sauveur. Si nous avons la conscience purifiée par le sang de Christ, souvenons-nous que sa croix doit être appliquée d'une manière pratique à tout le cours et au caractère de notre vie. Comment se fait-il que nous puissions si légèrement pécher, en pensée, en parole et en acte? Comment peut-il y avoir tant d'indulgence pour soi-même? N'est-ce pas parce que la chose dont les peines d'affliction sont le type manque dans notre vie? Nous craignons qu'il y ait un manque déplorable de profondeur et de sérieux dans notre christianisme. Il y a trop de connaissances intellectuelles sans puissance intérieure. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser qu'une des causes de ce triste état de choses ne soit une certaine manière de prêcher l'Évangile, une manière qui manque de profondeur spirituelle, de sainte gravité. Dans l'effort fait pour combattre le légalisme, il y a une tendance au relâchement. Or, si le légalisme est un grand mal, le relâchement en est un tout aussi grand. Il importe de se tenir en garde contre ces deux formes de mal. La grâce est le remède contre le premier, et la vérité contre le dernier. Mais la sagesse et l'intelligence spirituelle sont nécessaires pour nous rendre capables de maintenir les deux à leur place et de les appliquer convenablement. Si, par exemple, nous rencontrons une âme profondément exercée sous l'action puissante de la vérité, travaillée par le ministère du Saint-Esprit, il s'agit dans ce cas de verser les consolations de la grâce de Dieu, telle qu'elle est déployée dans le sacrifice de Christ. Voilà le remède divin pour un cœur brisé, un esprit contrit, une conscience convaincue de péché. Mais si nous voyons une personne sans sérieux et n'annonçant en rien un cœur brisé, parler avec emphase de la grâce et s'élever hautement contre le légalisme, il s'agit de présenter solennellement la vérité au cœur et à la conscience. Si nous jouissons réellement de la précieuse vérité que notre Pâque, Christ, a été sacrifié, ne manquons pas de célébrer la fête avec des pains sans levain de sincérité et de vérité. Voir 1 Corinthiens 5, verset 8. Quand le Saint-Esprit déploie devant nous la valeur de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous amène à méditer sur le mystère de ses souffrances, à repasser dans nos cœurs tout ce par quoi il a dû passer pour nous, tout ce qui lui en a coûté pour nous sauver des conséquences éternelles de nos péchés. Or, c'est là un travail très profond, qui nous conduit à ne pas traiter le péché à la légère. Demandons instamment à Dieu de nous rendre capables d'entrer plus profondément et d'une manière plus pratique dans les souffrances de Christ et d'appliquer la croix à tout ce qui en nous lui est contraire. C'est ce qui donnera plus de profondeur à notre piété, plus de délicatesse à nos consciences, ce qui produira davantage de sainteté de cœur et de vie, et une séparation pratique d'avec le monde. La fête des semaines ou la Pentecôte. La fête de la Pentecôte suit la Pâque. Tu compteras 7 semaines, depuis que la faucille commence à être mise au blé, tu commenceras à compter 7 semaines et tu célébreras la fête des semaines à l'Éternel, ton Dieu, avec un tribut d'offrande volontaire de ta main, que tu donneras selon que l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni. Et tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, toi et ton fils et ta fille et ton serviteur et ta servante et le Lévite qui est dans tes portes et l'étranger et l'orphelin et la veuve qui sont au milieu de toi, au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y faire habiter son nom. Et tu te souviendras que tu as été serviteur en Égypte et tu garderas et tu pratiqueras ses statuts. Versets 9 à 12. La Pâque représente la mort de Christ, la gerbe des prémices est le type de Christ ressuscité, et dans la fête des semaines, nous avons en figure la descente du Saint-Esprit 50 jours après la résurrection. Nous parlons de ce que ces fêtes nous communiquent des pensées de Dieu à notre égard et non de la compréhension qu'Israël pouvait avoir de leur signification. Notre privilège est de considérer toutes ces institutions typiques à la lumière du Nouveau Testament, et nous sommes remplis d'admiration devant la beauté et la perfection divine de tous ces types. Nous voyons comment les Écritures du Nouveau Testament se relient à celles de l'Ancien. La merveilleuse unité du volume divin montre qu'un seul et même esprit a inspiré le tout du commencement à la fin. En examinant les détails de la fête des semaines ou de la Pentecôte, nous sommes frappés de la différence qu'elle présente avec la fête des pains sans levain. Elle nous parle de l'Église formée par le Saint-Esprit et présentée à Dieu comme une sorte de prémisse de ses créatures. Jacques 1, verset 18. Une offrande volontaire à Dieu. Nous nous sommes arrêtés sur ce type dans nos notes sur le livre du Lévitique, chapitre 23. C'est pourquoi nous n'y reviendrons pas en détail. Nous nous bornerons à ce qui est particulier au Deutéronome. Le peuple devait offrir un tribut d'offrande volontaire, selon que l'Éternel, son Dieu, l'avait béni. Il n'y avait rien de semblable dans la Pâque, parce que cette fête préfigurait Christ s'offrant lui-même pour nous en sacrifice, et non pas une offrande venant de nous. La fête de Pâques nous rappelle notre délivrance du péché et de Satan, et ce que cette délivrance a coûté. Nous y voyons les souffrances profondes de notre précieux Sauveur préfigurées par l'agneau rôti au feu. Nous nous souvenons que nos péchés étaient sur lui. Il a été meurtri pour nos iniquités, jugé à notre place, et cette pensée conduit à une profonde contrition du cœur, à ce que nous pouvons appeler la vraie repentance chrétienne. Mais, dans la fête de Pentecôte, nous voyons la puissance du Saint-Esprit et les effets divers de sa présence en nous et avec nous. Il nous rend capables de présenter nos corps et tout ce que nous avons en offrande volontaire à notre Dieu, selon qu'il nous a bénis. Ceci ne peut être produit que par la puissance du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui nous rend capables de saisir les droits de Dieu sur nous. Il nous donne de voir et de comprendre que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons appartient à Dieu. Il nous donne de prendre plaisir à nous consacrer à Dieu tout entier, âme, esprit et corps, ce qui est vraiment une offrande volontaire. Nous avons ici l'esprit et le caractère moral de toute la vie et de tout le service chrétien. Le précieux don de l'esprit est une conséquence de la mort, de la résurrection et de la glorification de Christ. La présence du Saint-Esprit sur la terre, son habitation avec tous les vrais croyants et en eux, est une grande vérité caractéristique du christianisme. Elle n'était pas et ne pouvait pas être connue dans les temps de l'Ancien Testament. Au moment de quitter les siens, le Seigneur leur dit « Toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jean 16, verset 7. Ceux qui avaient joui du grand privilège de vivre dans la compagnie personnelle du Seigneur devaient être placés dans une position plus privilégiée encore par son départ et la venue du Consolateur. L'Esprit de Dieu est la source et la puissance d'une vie de dévouement et de consécration personnelle à Dieu. C'est ce que préfigure le tribut d'une offrande volontaire. Le sacrifice de Christ est le fondement et la présence du Saint-Esprit la puissance de la consécration du chrétien à Dieu, esprit, âme et corps. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Romains 12, verset 1. Se réjouir devant Dieu. Et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Verset 11. Nous n'avons rien de semblable dans la Pâque, ni dans la fête des pains sans levain. La joie n'aurait pas été en rapport moral, ni avec l'une, ni avec l'autre de ces fêtes. Il est vrai que la mort de Christ est la base même de toute la joie que nous pouvons réaliser ici-bas, ou que nous réaliserons dans l'éternité, mais c'est toujours avec des cœurs étreints que nous pensons à la mort de Christ, à ses souffrances et à ses douleurs. Dans la fête de Pentecôte, la joie était un des traits dominants. Nous n'y voyons ni herbes amères, ni pain d'affliction, parce que cette fête est le type de la venue du Consolateur, de la descente du Saint-Esprit procédant du Père et envoyé par Christ glorifié dans le ciel. Cette présence du Saint-Esprit remplit le cœur des rachetés de louanges, d'actions de grâce et d'allégresse. Elle les amène dans une pleine et heureuse communion avec leur chef glorifié. Elle est le gage de son triomphe sur le péché, la mort, Satan et toutes les puissances des ténèbres. La présence de l'Esprit est liée à la liberté, à la lumière, à la puissance et à la joie. C'est ainsi que nous lisons « Les disciples étaient remplis de joie et de l'Esprit-Saint » Acte 13, verset 52. Il nous faut distinguer entre son œuvre en nous et son habitation en nous, entre l'acte par lequel il vivifie et le fait qu'il est le sceau mis sur nous. La conviction de péché dans l'âme est le résultat de l'action de l'Esprit. C'est son opération qui conduit à la repentance, et cela ne produit pas la joie. C'est une chose absolument indispensable, mais loin de donner de la joie, cela produit une profonde douleur. Et quand, par la grâce, nous sommes rendus capables de croire en un Sauveur ressuscité et glorifié, alors le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. Il est le sceau de notre acceptation et les arts de notre héritage. Or, cela nous remplit d'une joie inexprimable, et étant ainsi comblés nous-mêmes, nous devenons des canaux de bénédiction pour d'autres. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Or, il disait cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 7, versets 38 et 39. L'Esprit est la source de la puissance et de la joie dans le cœur du croyant. Il nous remplit et nous emploie pour apporter la bénédiction aux âmes altérées qui nous entourent. Il nous unit à Christ dans la gloire et nous maintient dans une communion vivante avec lui. Par la puissance du Saint-Esprit, chaque mouvement du chrétien devrait répandre la bonne odeur de Christ. Si quelqu'un prétend être chrétien et montre des sentiments égoïstes, un esprit d'avarice, de convoitise et de mondanité, s'il a un cœur ambitieux, jaloux, envieux ou orgueilleux, il déshonore le nom de Christ. Il jette de l'opprobre sur ce glorieux christianisme qu'il professe. La joie du croyant a sa source dans la bonté de Dieu. Elle se répand tout alentour. Elle s'approche de tout ce qui est souffrant ou nécessiteux. Et tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, toi et ton fils et ta fille, et ton serviteur, et ta servante, et le lévite qui est dans tes portes, et l'étranger, et l'orphelin, et la veuve qui sont au milieu de toi. Verset 11. Mais où sont ces eaux rafraîchissantes qui devraient jaillir de nous? Sommes-nous des épîtres de Christ, connus et lus de tous les hommes? Peut-on voir dans la vie des chrétiens une reproduction de la vie de Christ, de sorte que l'on puisse dire « Voilà du vrai christianisme ». Oh, que l'Esprit de Dieu réveille dans nos cœurs le désir d'être plus conforme à l'image de Christ en toutes choses. La fête des tabernacles. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu auras recueilli les produits de ton aire et de ta cuve. Et tu te réjouiras dans ta fête, toi et ton fils et ta fille et ton serviteur et ta servante et le lévite et l'étranger et l'orphelin et la veuve qui sont dans tes portes. Tu feras pendant 7 jours la fête à l'Éternel, ton Dieu, au lieu que l'Éternel aura choisi. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toute ta récolte et dans tout l'ouvrage de tes mains. Et tu ne seras que joyeux. 3 fois l'an, tout mâle d'entre vous paraîtra devant l'Éternel, ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi. À la fête des pains sans levain, et à la fête des semaines, et à la fête des tabernacles, et on ne paraîtra pas devant l'Éternel à vide. Mais chacun, selon ce que sa main peut donner, selon la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu, laquelle il te donnera. Versets 13 à 17. Nous avons ici un type magnifique de l'avenir d'Israël. La fête des tabernacles n'a pas encore eu son antitype. La Pâque et la Pentecôte ont eu leur accomplissement dans la mort de Christ et la descente du Saint-Esprit. Mais la troisième grande solennité nous porte en avant, vers les temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps. Acte 3, verset 21. Remarquons d'abord le moment où cette fête devait se célébrer. C'était quand tu auras recueilli les produits de ton aire et de ta cuve. En d'autres termes, c'était après la moisson et la vendange. il y a une différence très marquée entre ces deux choses. L'une parle de grâce, l'autre de jugement. À la fin de la période actuelle, Dieu assemblera son froment dans son grenier, et alors aura lieu la vendange, un jugement terrible. Nous avons un passage très solennel à ce sujet en Apocalypse 14. Et je vis, et voici une nuée blanche, et sur la nuée quelqu'un assis, semblable au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant à haute voix à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille, et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, parce que la moisson de la terre est desséchée. » Et celui qui était assis sur la nuée mit sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Versets 14 à 16. Là nous avons la moisson. Et ensuite, un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante, et un autre ange, ayant pouvoir sur le feu, sortit de l'autel, et, en jetant un grand cri, il cria à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins ont mûri. » Et l'ange mit sa faucille sur la terre, et vendangea la vigne de la terre, et jeta les grappes dans la grande cuve du courroux de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et de la cuve il sortit du sang jusqu'aux morts des chevaux, sur un espace de 1600 stades. Versets 17 à 20. Espace équivalent à toute la longueur du pays de la Palestine. Or, ces scènes apocalyptiques doivent se passer avant ce qui correspond à la fête des tabernacles. Christ assemblera son froment dans son grenier céleste, et après cela, il viendra et fera fondre ses jugements sur la chrétienté. Les Écritures établissent d'une manière incontestable le fait que le monde ne sera pas converti par l'Évangile. L'état de choses sur la terre n'ira pas en s'améliorant, mais au contraire ira de mal en pis. Le temps glorieux préfiguré par la fête des tabernacles doit être précédé par la vendange de la vigne de la terre, dont les grappes seront jetées et foulées dans la grande cuve du courroux du Dieu Tout-Puissant. Conclusion pratique. Avant de quitter ce chapitre, rappelons-nous que nous avons à montrer dans notre vie de chaque jour le reflet des vérités présentées dans les trois types que nous venons de méditer. Le christianisme est caractérisé par ces trois grands faits fondamentaux, la rédemption, la présence du Saint-Esprit et l'espérance de la gloire. Le chrétien est sauvé par le précieux sang de Christ, il est scellé par le Saint-Esprit et il attend le Sauveur. Ces grandes vérités sont destinées à être une puissance vivante dans nos âmes et à briller dans nos vies. Voyez combien les choses sur lesquelles nous nous sommes arrêtés sont essentiellement pratiques. Nous pouvons penser aux accents de louange, aux actions de grâce, de joie et de bénédiction qui se faisaient entendre dans l'Assemblée d'Israël lorsqu'elle était réunie autour de l'Éternel au lieu qu'il avait choisi. La louange et les actions de grâce montaient à Dieu, et une généreuse bienfaisance s'étendait sur tous ceux qui étaient dans le besoin. Ils ne devaient pas se présenter devant l'Éternel à vide. Ils devaient venir le cœur plein de louanges et les mains pleines des fruits de la bonté divine pour réjouir les cœurs des ouvriers du Seigneur et ceux des pauvres. L'Éternel rassemblait son peuple autour de lui pour le remplir de joie et pour faire d'eux les canaux de ses bénédictions pour les autres. Trois fois l'an, il devait se lever et se rendre au lieu que l'Éternel avait désigné pour les rassembler. Là, il devait entonner leur louange à l'Éternel et faire participer libéralement ceux qui étaient dans le besoin à tous les biens qui leur avaient été accordés. Le peuple avait le privilège de réjouir le cœur du Lévite, de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. C'est là l'œuvre à laquelle Dieu lui-même prend son plaisir, et il voulait faire partager ce bonheur à son peuple. Il voulait qu'on voie que le lieu où il rencontrait son peuple était une sphère de joie et de louange et un centre d'où la bénédiction devait déborder dans toutes les directions. Toutes ces choses ne renferment-elles pas une instruction pour nous? Que la grâce de Dieu agisse sur nos cœurs, de telle sorte qu'ils soient remplis d'adoration et que nos mains soient pleines de bonnes œuvres. Il est à craindre que plusieurs d'entre nous qui faisons profession de connaître les plus hautes vérités de la foi chrétienne, nous ne soyons pas à la hauteur de notre profession et que nous n'agissions pas d'après le principe posé au verset 17 « Chacun selon ce que sa main peut donner, selon la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu, laquelle il te donnera. Quoique nous n'ayons rien à faire et rien à donner pour notre salut, nous pouvons cependant faire beaucoup pour le Sauveur et donner beaucoup pour ses ouvriers et ses pauvres. Il y a un grand danger d'exagérer le principe que nous n'avons rien à faire ou à donner. Et si dans les jours de notre ignorance nous avons travaillé et donné d'après un principe faux et avec un faux objet en vue, nous ne devons pas faire moins et donner moins maintenant que nous sommes sauvés et bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. Nous avons à prendre garde de ne pas nous contenter de la simple compréhension intellectuelle de ces grandes et glorieuses vérités. Notre conduite et notre caractère chrétien devraient en subir la puissante influence. Les juges et les magistrats. Tu t'établiras des juges et des magistrats selon tes tribus, dans toutes tes portes que l'Éternel, ton Dieu, te donnera, pour qu'ils jugent le peuple par un jugement juste. Tu ne feras pas fléchir le jugement. Tu ne feras pas exception de personne, et tu ne recevras pas de présent, car le présent aveugle les yeux des sages et pervertit les paroles des justes. La parfaite justice, tu la poursuivras, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Versets 18 à 20. Ces paroles nous enseignent une double leçon. Elles nous présentent d'abord la justice impartiale qui caractérise toujours le gouvernement de Dieu. Chaque cas est jugé sur le terrain des faits qui s'y rattachent. D'un autre côté, ces paroles nous montrent ce que vaut le jugement de l'homme quand il est laissé à lui-même. Il est capable de faire fléchir le jugement, de faire acception de personne, de recevoir des présents. Il peut donner de l'importance à quelqu'un à cause de sa position et de sa fortune. Puisqu'il est mis en garde contre tout cela, c'est qu'il est enclin à agir de cette façon. La justice humaine et le gouvernement humain sont susceptibles de la plus grossière corruption. Les juges et les magistrats, s'ils ne sont dirigés par des principes divins, sont capables de se détourner de la justice par amour du gain, de favoriser un méchant parce qu'il est riche et de condamner un homme juste parce qu'il est pauvre. Ils peuvent prononcer un verdict en opposition directe avec les faits les plus évidents pour obtenir un avantage, argent, influence, popularité ou pouvoir. Le cœur humain est la terre nourricière de tout péché, de toute méchanceté, de toutes les abominations qui se sont commises et se commettent dans ce monde. La preuve en est donnée dans les commandements et les défenses qui se lisent dans les pages de la Bible. Si elles s'y trouvent, c'est afin que nous voyions, comme dans un miroir, de quels matériaux moraux nous sommes faits, de quelles pensées et de quels actes nous sommes capables. Mais quelle beauté morale, quelle pureté et quelle délicatesse dans les ordonnances divines pour les fils d'Israël! Ils ne devaient pas se détourner de la justice, mais la laisser avoir son cours sans égard à l'apparence des personnes. Le pauvre en haillons devait être traité comme le riche. Le jugement du tribunal ne devait être influencé par aucune partialité ni aucune prévention, et la robe du juge ne devait pas être souillée de la moindre tache de corruption. Oh, quel beau temps pour cette pauvre terre qui gémit maintenant, quand elle sera gouvernée par les lois admirables qui se lisent dans les pages inspirées du Pentateuque, quand un roi régnera en justice et que des princes domineront avec droiture. Ésaïe 32, verset 1. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple en justice et tes affligés avec droiture. Psaume 72, verset 1 et 2. On ne se détournera pas de la justice. Il n'y aura ni corruption ni partialité. Le cœur soupire après le temps heureux où tout cela sera réalisé, où la terre sera pleine de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Ésaïe 11, verset 9. Où le Seigneur Jésus prendra sa grande puissance et entrera dans son règne, et où l'Église, dans le ciel, reflétera les rayons de sa gloire sur la terre. Alors les 12 tribus d'Israël se reposeront sous la vigne et sous le figuier dans leur terre promise, et toutes les nations de la terre se réjouiront sous le gouvernement paisible et bienfaisant du Fils de David. Mise en garde contre l'idolâtrie. Tu ne planteras pas d'achère de quelque bois que ce soit à côté de l'autel de l'Éternel, ton Dieu, que tu te feras. Et tu ne te dresseras pas de statue, chose que hait l'Éternel, ton Dieu. versets 21 et 22. Dans les dernières lignes du chapitre 16, Israël est mis en garde contre toute imitation des coutumes religieuses des nations environnantes. Les Israélites devaient éviter avec soin tout ce qui pouvait les faire tomber dans les abominables idolâtries des nations païennes qui les entouraient. L'autel de Dieu devait être complètement distinct et séparé de ses ashères ou idoles femelles, objets de cultes infâmes. Tout ce qui pouvait éloigner le cœur du seul Dieu vivant et vrai devait être évité avec soin.